VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter le monde aujourd'hui, édition du vendredi 30 juin 2023. Il est 17h30 temps universel. Voici le sommaire. Les casques bleus de l'ONU quitteront le Mali au plus tard le 1er janvier 2024, a décidé le Conseil de sécurité ce vendredi, 2 semaines après la demande par Bamako du retrait de la mission onusienne de son territoire. En Côte d'Ivoire, le recours déposé par l'ancien président Laurent Gbagbo pour être inscrit sur la liste électorale a été rejeté par la commission électorale. L'avenir de Wagner en Afrique dépendra des pays concernés, a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, une semaine après la mutinerie avortée du chef du groupe paramilitaire en Russie. Le gouvernement français va déployer les blindés de la gendarmerie pour faire face aux émeutes qui secouent le pays depuis la mort d'un adolescent de 17 ans lors d'un contrôle policier. À suivre aussi la minute économique avec Jacques Aristide et les sports avec Nani Talani. Mais pour commencer, le journal. Le Conseil de sécurité de l'ONU a mis un terme ce vendredi à la mission de maintien de la paix des casques bleus au Mali. La résolution a été adoptée à l'unanimité et stipule que les casques bleus doivent organiser leur départ d'ici le 31 décembre. Jean-Roger Bion.
La résolution adoptée à l'unanimité des 15 membres du Conseil décide de mettre un terme au mandat de la MINUSMA à partir du 30 juin. Les casques bleus vont cesser leurs opérations dès demain pour se concentrer sur l'organisation de leur départ, avec l'objectif de terminer ce processus d'ici le 31 décembre 2023. Le 16 juin dernier, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, dénonçant l'échec de la mission onusienne au Mali, avait exigé son retrait sans délai. Le Conseil a dû se résoudre à signer l'arrêt de mort de la mission la plus coûteuse de l'ONU. Les relations entre Bamako et la mission s'étaient largement détériorées depuis la prise de pouvoir des militaires en 2020. L'ONU dénonçant régulièrement les entraves des autorités maliennes au déplacement des casques bleus et les autorités de Bamako, réclamant de leur côté une MINUSMA qui ne se penche pas sur les questions des droits humains, mais s'attaque aux groupes terroristes.
Ajoutons que la Russie a renouvelé son soutien indéfectible au Mali après l'annonce du retrait de la MINUSMA. D'après la page Twitter du ministère malien des Affaires étrangères, c'était lors d'un entretien téléphonique entre le ministre Abdoulaye Diop et son homologue russe Sergei Lavrov. En Sierra Leone, le principal parti d'opposition a dénoncé des irrégularités et maintient son rejet total des résultats de l'élection présidentielle. Le parti du Congrès de tout le peuple, dont le leader est Samoura Camara, candidat arrivé deuxième avec 41,16% des voix, estime que les résultats annoncés ne correspondent pas au nombre total de suffrages exprimés dans chaque bureau de vote. Le président sortant, Julius Maada Bio, a été réélu pour un deuxième mandat dès le premier tour avec 56,17% des voix, selon des résultats fournis mardi par la commission électorale. Au Burkina Faso, au moins 41 personnes, dont 8 soldats et 33 supplétifs de l'armée, communément appelés VDP, volontaires pour la défense de la patrie, ont été tués entre lundi et mardi dans 2 attaques dans la boucle du Mouhoun et dans le centre nord du pays. L'état-major général des armées précise qu'au moins 80 terroristes ont été tués. De Ouagadougou, les précisions de notre correspondant Lamine Traoré.
8 militaires ont été tués et 9 autres blessés dans une embuscade près de la localité de Tia dans la région de la boucle du Mouhoun. Dans le communiqué de l'armée, l'embuscade tendue contre une unité militaire du groupement de forces du secteur ouest a eu lieu le mardi vers 12h heure locale. La riposte a permis de neutraliser plus de 30 terroristes et récupérer leur armement et leurs moyens roulants, a affirmé l'état-major. La veille lundi, un camp de supplétifs de l'armée a été visé à Nouaka, province du San Matenga dans le centre nord, où 33 VDP ont été tués. Selon l'état-major, ces VDP ont neutralisé une cinquantaine de terroristes et récupéré une importante quantité de matériel. Aussi, 34 autres personnes ont été tuées lundi, dont 31 soldats et 3 supplétifs à Namsigia, dans la même région du centre nord. Selon l'état-major, 40 terroristes ont été neutralisés dans cette attaque d'un convoi de ravitaillement. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le sort de la présence en Afrique du groupe paramilitaire Wagner, à l'origine de la rébellion avortée en Russie, dépendra des pays concernés, a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, une semaine après la mutinerie avortée du groupe paramilitaire en Russie. Jacques Aristide.
L'avenir des arrangements entre les pays africains et le groupe Wagner relève avant tout de la décision des gouvernements concernés de poursuivre ou non cette forme de coopération, a déclaré Sergueï Lavrov aujourd'hui. Le destin de Wagner, qui combattait en Ukraine et dont la présence a été attestée dans plusieurs pays d'Afrique, mais aussi en Syrie, est en question après la rébellion de 24 heures conduite en Russie par son patron Yevgeny Prigojine. Si ce dernier a rapidement abandonné sa mutinerie et s'est exilé au Bélarus, ses hommes doivent désormais choisir de le suivre, s'engager dans l'armée russe ou retourner à la vie civile. Le groupe doit également rendre ses équipements et ses armes lourdes. Bangui affirme que la Russie continuera d'opérer en République centrafricaine avec ou sans Wagner. De son côté, Paris appelle tous les pays impliqués à se dissocier du groupe paramilitaire et envisage des sanctions supplémentaires pour les crimes que Wagner est accusé de commettre. Washington a déjà fait état de nouvelles sanctions.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été exonéré de l'accusation de s'être mal comporté et d'avoir trahi l'honneur de sa fonction dans un scandale lié à un cambriolage, a annoncé ce vendredi la médiatrice de la République. Le scandale a éclaté en juin 2022 lorsque l'ex-chef du renseignement a porté plainte en accusant Cyril Ramaphosa d'avoir dissimulé le vol en 2020 de liasses de dollars dénichées par des cambrioleurs sous les coussins d'un canapé d'une de ses propriétaires. Au regard des normes imposées par le code d'éthique de l'exécutif, il n'existe aucune base permettant de conclure que le président a enfreint les dispositions pertinentes de la loi, y compris pendant la période qui a suivi le vol présumé de dollars, a déclaré Koleka Glaheka devant la presse à Pretoria. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a rejeté le recours déposé le 8 juin par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, recours lié à son inscription sur la liste électorale d'Annie Talani.
La réclamation de son Excellence Laurent Gbagbo, président du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, a été rejetée, indique ce parti. Radié de la liste électorale, M. Gbagbo avait déposé un recours devant la commission électorale indépendante le 8 juin. Selon le texte, l'ancien président considère cette non-inscription comme une manœuvre politicienne visant à l'écarter de la vie politique et à diminuer l'ardeur et la mobilisation des militants et sympathisants du PPACI pour les élections locales prochaines. Son parti juge que la CI est sous contrôle du chef de l'État Alassane Ouattara et de son régime. M. Gbagbo ne pourra donc pas se présenter ni en tant qu'électeur, ni en tant que candidat aux élections municipales et régionales du 2 septembre, ni à la présidentielle en 2025. Acquitté par la CPI, Laurent Gbagbo reste sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour le braquage de la BCAO en 2011. Laurent Gbagbo a toujours réfuté cette accusation, dénonçant le fait qu'il n'a jamais été convoqué pour son procès ni notifié du jugement prononcé en son absence.
Et toujours en Côte d'Ivoire, le divorce entre l'ex-président Laurent Gbagbo et son épouse Simone, demandé dès son retour à Abidjan en juin 2021 par M. Gbagbo, après son acquittement par la justice internationale, a été officiellement prononcé jeudi, selon un communiqué de l'avocat de Simone Gbagbo.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, les principales villes du pays ont connu une troisième nuit d'émeute déclenchée par la mort d'un adolescent d'origine algérienne et marocaine lors d'un contrôle routier. Le gouvernement français, qui s'efforce de contenir l'agitation, a annoncé des moyens de sécurité supplémentaires. Alexandrine Oloyon.
De nombreuses villes en région parisienne comme en province portent encore les stigmates de cette troisième nuit de violence. 40 000 policiers ont été déployés dans toute la France, soit près de 4 fois plus que mercredi. Il y a peu de signes que les appels du gouvernement à une désescalade ont été entendus. Le président Emmanuel Macron a écourté son séjour à Bruxelles pour revenir assister à une nouvelle réunion interministérielle de crise. Il a annoncé des moyens supplémentaires pour la police après cette nouvelle flambée de violence déclenchée par la mort d'un jeune de 17 ans, Naël, abattu par un policier à Nanterre, près de Paris. L'Allemagne a exprimé sa vive inquiétude sur ce qui se passe en France voisine. Lors du point de presse régulier de l'ONU à Genève, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a demandé à la France de s'attaquer sérieusement aux profonds problèmes de racisme et de discrimination parmi les forces de l'ordre.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Jacques Aristide.
Au Kenya, augmentation du salaire du chef de l'État, William Ruto, comme ceux du vice-président Rigathi Gachagua et d'autres membres du gouvernement, alors que le pays est touché par une forte inflation et que de nouvelles taxes, notamment sur les carburants, entrent en vigueur. D'après la Commission des salaires et des rémunérations, le salaire mensuel du président passe de 10 000 à 11 000 dollars environ. Au Kenya, le salaire minimum est de 15 000 shillings, environ 110 dollars. Cette mesure a été largement critiquée sur les réseaux sociaux. Le président Ruto a tenté de désamorcer la polémique en déclarant vendredi qu'il fallait s'assurer que l'écart entre la personne qui est la moins bien payée et la personne la mieux payée ne soit pas trop grand. La hausse des prix des carburants est la conséquence de la promulgation lundi par M. Ruto d'une loi de finances instaurant de nombreuses nouvelles taxes. En République démocratique du Congo, un projet ambitieux pour protéger les mineurs artisanaux des escrocs est en train de prendre forme dans la province de Lualaba, dont Kolwezi est le chef-lieu, en créant un centre de négoce soutenu par le gouvernement. Les mineurs informels, appelés creuseurs, et qui pour la plupart travaillent dans des conditions désastreuses, affirment que les négociants qui fixent les prix trichent sur la teneur du minerai pour les escroquer.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Nanit Talani. Salut Nanit.
Bonsoir Oufa, bonsoir à tous.
La CAN U23 se poursuit au Maroc jusqu'au 8 juillet avec deux matchs au programme du groupe A ce soir.
Pour cette troisième et dernière journée des phases de poule du groupe A, dont les deux rencontres se jouent de façon simultanée à 21h locale, le Congo croisera le fer avec le Maroc à Rabat et la Guinée en découdra avec le Ghana à Tanger. Le Maroc, pays hôte avec 6 points en deux matchs, est déjà qualifié pour les demi-finales qui se disputeront le 4 juillet. Mais le Congo, qui a subi une défaite contre le Ghana 3-2, puis contre la Guinée, est quasiment éliminé. La Guinée et le Ghana, qui s'affrontent dans le deuxième match, totalisent chacun 3 points et se disputent la deuxième place du groupe. S'ils font un match nul, la Guinée se qualifiera grâce à une meilleure différence de but, plus 1.
Parlons à présent de la compétition probable des différents chapeaux pour le tirage au sort des groupes éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour la zone Afrique qui aura lieu le 12 juillet en Côte d'Ivoire.
D'abord, le tirage au sort se fera en marge de la 45e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF, la Confédération Africaine de Football, à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nos confrères d'Afrique Foot ont publié une composition probable des différents chapeaux qui seront utilisés pour l'occasion. Dans le chapeau 1, on trouve le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, le Cameroun, le Mali et la Côte d'Ivoire. Le chapeau 2 inclut le Burkina Faso, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, la RDC, la Guinée, la Zambie, le Gabon et la Guinée équatoriale. Dans le chapeau 3, on trouve l'Ouganda, le Bénin, la Mauritanie, le Kenya, le Congo-Brazzaville, Madagascar, la Guinée-Bissau, la Namibie et l'Angola. Le chapeau 4 inclut le Mozambique, la Gambie, la Sierra Leone, le Togo, la Tanzanie, le Zimbabwe, la RCA, le Malawi et la Libye. Le chapeau 5 inclut le Niger, les Comores, le Soudan, le Rwanda, le Burundi, l'Éthiopie, l'Eswatini, le Botswana et le Libéria. Enfin, dans le chapeau 6, on trouve le Lesotho, le Soudan du Sud, Maurice, le Tchad, Sao Tomé et Principe, le Djibouti, les Seychelles, l'Érythrée et la Somalie.
L'équipe nigériane de football féminin se rend en Australie pour se préparer à la Coupe du Monde FIFA Femmes.
Effectivement, les Super Falcons Femmes, 9 fois championnes d'Afrique, s'envolent dimanche pour l'Australie afin d'intensifier leurs préparatifs pour la Coupe du Monde féminine FIFA 2023 qui se tiendra du jeudi 20 juillet au dimanche 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande avec 32 équipes.
Merci Nani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouamadou Oumfa toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Au Tchad, le président de la transition tend la main à tous ceux qui ont fui le pays suite aux manifestations violemment réprimées du 20 octobre 2022 en leur demandant de rentrer au pays. Ce geste d'apaisement effectué par Mahamad Idriss Déby face à des dignitaires musulmans lors de la célébration de la fête de la Tabaski a été rejeté par certaines des personnes concernées. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, nous en dit plus.
Du haut de cette tribune, je pardonne tous ceux qui sont impliqués, condamnés ou non, ayant commis des dégâts lors de l'insurrection du 20 octobre 2022.
Le président de la transition, Mahamad Idriss Déby, face aux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, suite à l'adoption controversée de l'unique projet de la Constitution par les conseillers nationaux qui consacre l'État unitaire et qui sera soumis au référendum, le général Mahamad Idriss Déby veut paraître blanc comme la neige et joue à l'apaisement et même appelle ceux qui ont fui le pays à revenir au bercail.
J'invite ceux d'entre eux qui ont fui le pays à regagner la mère patrie et participer à l'œuvre de construction de notre nation. La transition a été pensée inclusive et elle sera inclusive jusqu'à son terme.
Cet appel s'adresse aux militants du parti Les Transformateurs dont les leaders ont quitté le pays.
Les Transformateurs ne sont pas une pépinière, moins encore la moyenne section, ni la grande section pour que le président de transition passe tout son temps à chaque fête des musulmans à demander pardon.
Dr Sitak Yombatina Beni, vice-président du parti Les Transformateurs, qui estime qu'il faut séparer l'État de la religion et que les dirigeants doivent savoir qu'ils sont à la tête d'une république et non d'un clan, ni d'une religion. Depuis son exil, il estime que le pardon seul ne suffira pas.
Il faut qu'il y ait des actes concrets. Je note au passage que malgré les pardons antérieurs, il y a encore aujourd'hui des gens arrêtés injustement depuis le 20 octobre et dans la foulée qui sont encore jusqu'à aujourd'hui à Korotoro. Et donc, ils ne sont pas encore remis, n'est-ce pas, à leur famille. Et en plus, il ne suffit pas simplement de demander pardon. Qu'est-ce qu'on dit aux veuves, aux orphelins et à tous ceux qu'on a tués injustement? Il faut une justice. Où sont les bourreaux? Qu'attend-il le président de transition pour arrêter les bourreaux et les remettre à la disposition de la justice?
Pour maître Max Luangar, l'un des porte-parole de la coalition Wakitama, lui aussi en exil, cet appel est un trompe-l'œil.
Le président de la transition oublie qu'il est lui-même un acteur à part entière des événements du 20 octobre et que sa responsabilité dans la survenance des crimes odieux, de massacres, de tortures et de disparitions des personnes ne saurait passer sous silence. Et je vous assure que cet appel ne peut servir de cadre au retour de qui que ce soit. Ce serait incompréhensible de la part de ceux qui demandent depuis toujours qu'il y ait une clarté sur les événements du 20 octobre de rentrer comme ça sur la base d'un simple appel alors même que le rapport attendu de la CAC n'a pas été produit pour nous dire quelle est l'ampleur des dégâts suite donc à cette date du 20 octobre et des jours suivants.
Avant les violences meurtrières, pendant les manifestations du 20 octobre, il y a eu des dialogues à Doha et à N'Djamena. Ces manifestations ont été suivies de plusieurs arrestations, des procès de masse à la prison de Korotoro au cœur du désert, puis des libérations. Mais c'est encore et toujours un dialogue de sourds entre le pouvoir de N'Djamena et les transformateurs qui sont nombreux à quitter le pays. André Kodumajingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Bénin, une entreprise spécialisée dans la production et la distribution des montres intelligentes, lunettes connectées et ordinateurs portables de dernière génération bouscule le monde de la technologie. Des produits made in Bénin proposés par un jeune trentenaire dénommé Richard Oudjardo. Plus de précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Entrepreneur, geek, innovateur, inventeur, gestionnaire de projets et consultant en stratégie de communication et marketing digital, Richard Oudjardo est un jeune polyvalent qui a à son actif plusieurs projets d'envergure dans le monde du numérique. Il s'est fait un nom dans le secteur avant d'ouvrir en mars 2022 les portes de son entreprise, Asworld Tech. Sa première innovation est un prototype de montre connectée, Aswatch, de type antivol préventif avec un thermomètre digital intégrée.
Lorsqu'elle est connectée à votre smartphone et que vous vous éloignez du smartphone, au bout de 3 mètres, elle déclenche une alerte sur le smartphone par vibration. Donc discrètement, vous savez que votre téléphone s'éloigne ou c'est vous qui vous en éloignez. Et 3 mètres, c'est une petite distance qui vous permet de rattraper le smartphone avant qu'il ne soit trop tard.
Mais il devra convaincre avant tout ses partenaires trouvés en Chine qui doutaient de l'efficacité d'une telle technologie. Pour Richard Odrado, qui se présente comme un apporteur de solutions, rien n'est impossible, il suffit de faire preuve de volonté et d'être créatif.
Pendant 3 ans, j'ai travaillé sur un modèle, et après c'est sorti la Ice Watch. Ça a été la première montre africaine connectée, mais dotée du premier système préventif de vol de smartphone. Alors, c'était une innovation béninoise, mais c'est une innovation mondiale. Parce que après, je me suis rendu compte, pour tester l'idée, vu que je n'avais pas les moyens de produire, j'ai fait une vidéo de démo, de présentation que j'ai envoyée sur Internet. Et en 72 heures, plus de 12 000 intentions d'achat. Ce que nous voulons promouvoir ici, avec notre marque Asoka Spirit, c'est la synergie, l'humain au cœur de toutes nos actions. C'est ça le plus important.
Dépositaire de la marque Asoka Spirit, Richard Odrado ne se laisse pas influencer par le succès de ses montres connectées. Aujourd'hui, il dispose d'autres produits comme des lunettes connectées qui permettent d'appeler et d'écouter de la musique sans écouteurs, ainsi que des ordinateurs portables de dernière génération. Ces innovations lui ont valu d'être surnommé le Steve Jobs du Bénin. Il est en tout cas fier du potentiel de sa structure.
Aujourd'hui, nous travaillons à installer des usines d'assemblage de production locale.
Odrado fait partie des meilleurs jeunes entrepreneurs du secteur de la nouvelle technologie en Afrique. En 2022, il a été classé parmi les 100 personnalités inspirantes et influentes du continent. Pour lui, il faut que les jeunes comprennent qu'ils ont en eux le potentiel d'étonner le monde. Il suffit d'y croire et mettre sa volonté.
C'est qu'on a un potentiel, où qu'on se trouve, que ce soit au fin fond du Bénin, quelque part, on a le même potentiel de créativité l'Américain, le jeune Américain, où il se trouve. La différence est certainement la formation et les infrastructures qu'il faut.
Azolt Tech veut que ses produits soient à la portée de tous. Il réfléchit à la stratégie à mettre en place pour que tous les étudiants, les travailleurs et entrepreneurs puissent s'acheter un ordinateur made in Benin avec des facilités de paiement échelonnées. De Cotonou, Ginette Fleur-Adonné pour VOA Afrique.
This is the voice of America, Washington, D.C.
Washington, D.C., capitale fédérale des États-Unis, où les réactions se multiplient après la décision de la Cour suprême de mettre fin au programme de discrimination positive à l'université. Laurel Bowman de la VOA nous propose ce reportage réalisé à l'extérieur de la Cour, dans la capitale américaine, quelques minutes après l'annonce de l'arrêt. Le récit est de Jacques Aristide.
Une foule s'était réunie jeudi devant la Cour suprême à Washington, D.C. pour attendre le jugement. Quand il est tombé, ces personnes n'ont pas tardé à s'en réjouir, comme les étudiantes Kat Ninala et Elise Welch.
Je pense que les critères raciaux ne devraient pas jouer un rôle majeur dans les admissions à l'université. La couleur de peau d'une personne n'affecte pas sa capacité à faire un travail, à apprendre quelque chose ou à réussir dans un environnement universitaire. Cet aspect ne devrait pas décider de l'admission ou non de cette personne à l'université.
Yukon Mike Zhao de la Coalition des Américains d'origine asiatique pour l'éducation a accueilli la nouvelle avec grande joie.
C'est aussi une victoire pour tous les Américains, car cela préserve le mérite qui est le fondement même du rêve américain.
Un avis qui n'est pas partagé par d'autres personnes, également venues attendre la décision de la haute juridiction américaine. Pour Christopher Banks de la Ligue urbaine de Portland, ce jugement pourrait entraver les efforts visant à promouvoir la diversité dans les collèges et les universités.
Ma réaction, c'est que c'est très regrettable, et je suis très attristé parce que cela impose une limite aux jeunes aux États-Unis. Ce pays a été fondé sur l'égalité d'accès.
James Standish est un avocat qui enseigne actuellement à l'Université Adventiste de Washington.
Nous, en tant que société, allons devoir examiner de très près l'impact que cela va avoir sur l'enseignement supérieur et nous assurer que nous ne nous retrouvons pas avec des institutions essentiellement élitistes, sans représentation des minorités historiquement défavorisées. Je ne sais pas comment cela va se passer après cette décision.
Les sondages montrent que les Américains sont divisés sur la question, avec environ la moitié des adultes qui refusent que les critères raciaux et ethniques soient pris en compte dans les procédures d'admission à l'université, tandis qu'un tiers les approuve.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
On reste aux États-Unis pour parler du créateur de mode et bijoutier burkinabé Aziz Tamboura, qui a remporté le prix du meilleur bijoutier de luxe de New York, décerné par Fashion Group International. Ses joailleries hors du commun fascinent les grands noms de Hollywood et de la musique, pendant que ses lignes de vêtements captivent les piliers du prêt-à-porter tels que Puma. Reportage de Dini Niwa.
Le monde de Jankoy, créé par Aziz Tamboura et sa femme, se situe dans les rues branchées de Brooklyn, un univers unique au croisement de l'Afrique et de la Sibérie, où l'artisanat et la mode connectent les nations.
Les tenues traditionnelles ne sont pas obligées d'être toujours au musée. On peut les moderniser, le faire de sorte qu'ils soient portés de façon fière et qu'ils soient aussi embrassés, parce que ce n'est pas facile, il y a un marché. Occidental, et puis il y a une façon de faire, il y a des boulots dans lesquels on ne peut pas t'habiller d'une certaine manière, et il faut aussi qu'on puisse s'adapter à ça. On ne peut pas juste dire qu'on va le faire en africain, c'est fini. Il faut qu'on sache où on est, avec qui on deal, et puis essayer de changer ce qu'on fait pour pouvoir au moins introduire la chose elle-même. Et après, on peut aussi représenter. Personnellement, je porte des habits vraiment extravagants, très souvent, mais il y a des moments aussi dépendants d'où je suis, où je vais, qu'est-ce que je fais.
C'est en couple aux côtés de sa femme, la célèbre créatrice Marussia Baba Yaga, qu'il donne naissance à un style aux multiples facettes, où toutes les fusions qui rallient l'humanité sont permises.
I was born in Siberia, Russia, and
Je suis née en Sibérie, en Russie, et je suis née avec un amour pour les cultures africaines et anciennes cultures mondiales africaines. Le travail de Jankoy est donc d'envisager une restauration de l'artisanat et des cultures en tant que nouveau village spirituel de la famille humaine mondiale. Donc ce que nous faisons ici, c'est que nous créons de la mode et de l'art dans ce but.
Creating fashion and art.
Gagnant du prix du meilleur bijoutier de luxe de New York par Fashion Group International, rien ne prédisait un tel avenir à ce jeune Burkinabé. Et pourtant, aujourd'hui, les bijoux burkindi d'Aziz sont hautement prisés.
En essayant de trouver des pièces uniques pour moi-même, j'ai décidé de les faire moi-même. Et comme ça, les gens ont aimé, et ça a passé à Paul Smith, et de Paul Smith jusqu'à Bergdorf, et partout dans le monde, dans des petites boutiques.
Un de ses fidèles clients est DJ Camo Preston.
Une chose que j'aime vraiment, c'est à quel point le style est prononcé. Donc quand je le porte, ça dit « Hey, je suis là !» Et quand tu me regardes, dis la même chose.
Si sa surprenante coiffure est tout aussi célèbre que ses créations, elle est bien plus qu'un style. Elle représente avant tout un symbole de fierté de son héritage culturel.
La coiffure que tu peux trouver en Afrique, c'est incroyable. Le génie que les gens avaient dans ce temps-là. Et pour moi, c'est très important d'être toi-même. Et être toi-même, il faut au moins de temps en temps avoir un élément de ta propre culture.
Et c'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos plateformes digitales, Facebook, YouTube et Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique.